Vous écoutez On lit pour vous.
Les vidéos générées par IA mettent-elles notre attention à l'épreuve? Un texte de Virginie Soffer, paru le 30 juin 2026 dans Université de Montréal Nouvelle. Chaque jour, des millions de personnes font défiler des vidéos sur TikTok, Instagram Reels ou Facebook Shorts. Certaines montrent des scènes banales du quotidien, d'autres des images spectaculaires ou presque impossibles à croire. Désormais, une part croissante de ces contenus est générée par intelligence artificielle, IA. Et plus les outils deviennent performants, plus il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Cette nouvelle réalité soulève une question encore peu étudiée. Le simple fait de croire qu'une vidéo pourrait être créée par IA modifie-t-il notre fonctionnement cognitif? Cet été, une équipe interdisciplinaire de l'Université de Montréal tentera d'y répondre grâce à une expérience menée à la Neurothèque. Le projet, dirigé par André Gaudreau, professeur au département d'histoire de l'art, de cinéma et des médias audiovisuels, et Marie-Odile Demé-Degoustine, associée de recherche au laboratoire Cinémédia, en collaboration avec Karim Gerbi, professeur au département de psychologie, combine neurosciences, psychologie cognitive et études cinématographiques pour analyser l'effet des contenus générés par IA sur l'attention et la charge cognitive. Pour cela, il peut compter sur une équipe intersectorielle rassemblant les auxiliaires de recherche Tanzia Mobarak et William Pedno-Pouliot, affiliés au laboratoire Cinémédia, ainsi que les auxiliaires de recherche du laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles de l'Université de Montréal, Myriam Sarawi et Sina Esmaili. Grâce à des casques d'électroencéphalographie, à l'analyse des mouvements oculaires et à différentes mesures physiologiques, les chercheurs espèrent mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous regardons des vidéos dont l'authenticité devient incertaine. Plusieurs études laissent supposer que l'exposition répétée à des contenus très brefs et très stimulants pourrait nuire à l'attention soutenue. Changement de notre rapport aux images. Depuis environ 2 ans, il y a une prolifération énorme des outils qui permettent de créer facilement des vidéos et qu'on trouve sur les fils des réseaux sociaux, dit William Pedno-Pouliot. Et ces contenus deviennent de plus en plus photoréalistes, de plus en plus difficiles à détecter, même pour des experts. L'équipe s'est rapidement intéressée à l'effet psychologique de cette transformation. Avant l'arrivée massive de l'IA générative, les utilisateurs pouvaient généralement présumer qu'une vidéo publiée en ligne avait réellement été filmée. Aujourd'hui, cette certitude disparaît progressivement. Nous nous demandions si le fait d'avoir constamment à évaluer si ce qu'on regarde est vrai ou faux pouvait entraîner une surcharge cognitive supplémentaire, résume-t-il. Cette question s'ajoute à un autre phénomène déjà analysé, les effets des vidéos de format court sur l'attention. Plusieurs études laissent supposer que l'exposition répétée à des contenus très brefs et très stimulants pourrait nuire à l'attention soutenue, c'est-à-dire la capacité de maintenir sa concentration sur une longue période. Quand on regarde énormément de vidéos courtes, on s'habitue à des contenus qui captent l'attention très rapidement, explique Marie-Odile Demé-Degoustine. Certaines recherches montrent qu'il devient plus difficile de maintenir son attention sur des contenus plus longs. Les chercheurs veulent maintenant savoir si l'incertitude liée à l'IA amplifie ce phénomène. Une expérience conçue autour de la croyance plutôt que de la détection. Contrairement à plusieurs études sur les hypertrucages ou la désinformation, l'équipe ne cherche pas principalement à savoir si les participants sont capables de reconnaître les vidéos générées par IA. Nous pensons que, dans un futur proche, cette distinction deviendra pratiquement impossible à faire visuellement, affirme Myriam Sarawi. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est la charge cognitive liée au doute. L'expérience repose ainsi sur une manipulation des croyances des participants. 50 adultes neurotypiques sans troubles diagnostiqués visionneront des séries de vidéos très courtes, de 5 à 15 secondes, analogues à celles qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Les participants seront soumis à 4 conditions expérimentales. Dans les 3 premières, toutes les vidéos présentées seront authentiques, mais les consignes changeront. Dans l'une, les participants seront informés que toutes les vidéos sont réelles. Dans une autre, on leur dira qu'elles ont toutes été créées par IA. Dans la troisième, ils seront avertis qu'il pourrait y avoir un mélange de vidéos réelles et de vidéos produites par hypertrucage. Après chaque vidéo, ils devront rapidement donner leur appréciation du contenu en cliquant au choix sur le bouton « J'aime »,« Neutre » ou « Je n'aime pas ». Le but est de voir si la simple croyance qu'il pourrait y avoir de l'IA entraîne une mobilisation supplémentaire de ressources cognitives, précise Marie-Odile Demey de Goustine. La quatrième condition servira de tâche de contrôle. Cette fois, les participants verront réellement un mélange de vidéos authentiques et de vidéos générées par IA et devront tenter de déterminer lesquelles sont le fait de l'intelligence artificielle. Les chercheurs pourront ainsi comparer les résultats selon la capacité réelle des participants à détecter la présence de l'IA. Mesurer l'activité du cerveau en temps réel. Pour observer les effets cognitifs du visionnement, l'équipe utilisera plusieurs outils de mesure simultanément. Le principal instrument est un casque d'électroencéphalographie. Cet appareil relève l'activité électrique du cerveau à partir d'électrodes placées sur le cuir chevelu. Le cerveau communique constamment par des signaux électriques transmis entre les neurones, fait remarquer Myriam Sarraoui. Les électrodes nous permettent de capter cette activité très faible à la surface du cuir chevelu et de repérer certains processus cognitifs. Les chercheurs s'intéressent particulièrement aux variations de certaines zones cérébrales associées à l'attention, à l'effort mental et au traitement de l'information. Pendant l'expérience, de petits marqueurs numériques synchronisés avec les vidéos permettront d'associer précisément l'activité cérébrale au moment où les participants regardent certains contenus ou prennent une décision. Nous pourrons ainsi comparer ce qui se passe dans différentes conditions expérimentales, note Myriam Sarraoui. L'équipe utilisera également un système de suivi oculaire pour analyser les mouvements des yeux pendant le visionnement. Cette technologie permettra de savoir précisément quels éléments de l'image attirent l'attention des participants. Les chercheurs enregistreront aussi certaines réactions émotionnelles à l'aide d'un système de suivi facial capable de déceler des micro-expressions. Enfin, des capteurs mesureront la réponse électrodermale, soit les variations de conductivité de la peau liées à l'activation physiologique. Lorsqu'une personne ressent du stress, de l'incertitude ou certaines émotions, la transpiration microscopique de la peau augmente légèrement, modifiant sa conductivité électrique. Toutes ces données seront combinées afin de produire un tableau détaillé de la charge cognitive associée à chaque condition expérimentale. L'expérience repose sur une manipulation des croyances des participants. Construire une banque de vidéos crédibles. L'un des principaux défis de l'équipe a été la sélection des vidéos utilisées dans l'expérience. Pour éviter les biais, elle avait besoin de contenu réaliste, mais suffisamment ambigu pour susciter le doute. Plus de 700 vidéos ont ainsi été retenues par des étudiantes et étudiants de premier cycle en cinéma et en jeux vidéo, recrutés dans plusieurs cours. Pendant des semaines, ils ont analysé et téléchargé des contenus provenant de différentes plateformes sociales d'après des critères de sélection prédéterminés. Nous cherchions des vidéos qui restent sur une ligne très mince entre le plausible et l'incroyable, explique William Pedno-Pouliot. Pas quelque chose de complètement impossible comme un homard fumant une cigarette au fond de l'océan, mais des situations qui amènent les gens à se demander si ce qu'ils voient pourrait être faux. L'équipe doit aussi constamment vérifier l'authenticité des vidéos sélectionnées. Le risque, c'est de nous piéger nous-mêmes, reconnaît Myriam Sarraoui. Si une vidéo d'IA se retrouve accidentellement dans un bloc censé contenir seulement des vidéos réelles, cela compromet l'expérience. Mesurer les effets sur l'attention soutenue. Avant et après le visionnement des vidéos, les participants réaliseront également une tâche cognitive pour mesurer l'attention soutenue. Pendant cet exercice, des images de villes et de montagnes apparaîtront rapidement à l'écran. Les participants devront appuyer sur un bouton lorsqu'ils verront une ville, mais ne rien faire lorsqu'il s'agira d'une montagne. Cette tâche nous permettra d'évaluer si le visionnement des vidéos influence ensuite les capacités attentionnelles, indique Myriam Sarraoui. Nous voulons voir si certaines conditions entraînent davantage de fatigue cognitive ou de difficultés attentionnelles. Les chercheurs espèrent aussi déterminer si les attitudes personnelles vis-à-vis de l'IA influencent les résultats. Des questionnaires mesureront notamment la perception des participants à l'égard des technologies génératives, leur habileté numérique et leur niveau de confiance quant au contenu médiatique. Un projet pilote pour comprendre les médias de demain. Les chercheurs présentent l'étude comme un projet pilote exploratoire. Les résultats ne permettront pas de tirer de conclusions définitives sur les effets cognitifs de l'IA générative, mais il pourrait ouvrir la voie à de nouvelles recherches sur notre rapport aux images numériques. Le paysage médiatique change extrêmement vite, souligne Marie-Odile Demé de Goustine. Nous essayons surtout de comprendre comment cette nouvelle réalité transforme notre manière d'être attentif. Pour l'équipe, l'enjeu dépasse largement la simple technologie. À mesure que les faux contenus deviennent indiscernables des images réelles, c'est toute notre relation à la crédibilité, à la perception et à l'attention qui pourrait être transformée. Nous entrons dans un nouveau monde où le doute devient permanent, conclut William Pednaud-Pouliot. Et ce doute pourrait avoir des effets très concrets sur notre cerveau et sur notre manière de naviguer dans l'espace numérique. C'était « Les vidéos générées par IA mettent-elles notre attention à l'épreuve ?» Un texte de Virginie Soffer, paru le 30 juin 2026 dans Université de Montréal Nouvelle. Vous écoutez « Les vidéos générées par IA mettent-elles notre attention à l'épreuve ?» Un texte de Virginie Soffer, paru le 30 juin 2026 dans Université de Montréal Nouvelle.
Manger épicé pour se rafraîchir, un texte de la rédaction paru le 25 juin 2021 dans Québec Science. Manger des piments forts, ça brûle. Mais, ironiquement, cela permet de se rafraîchir par un subtil jeu d'illusion de chaleur qui incite le corps à transpirer. On associe les mots épicé et chaud. Sur notre langue, les plats bien piquants nous donnent l'impression que ça brûle. Il serait donc bien illogique de manger épicé pour se rafraîchir, n'est-ce pas? Eh bien non! Déguster les plats mexicains, jamaïcains et thaïlandais les plus relevés peut contribuer à se rafraîchir en pleine canicule. Il faut d'abord savoir que la sensation de brûlure provoquée dans la bouche par les piments forts est une illusion. La capsaïcine, le composé chimique produit par les piments et responsable du piquant, est une molécule qui excite les terminaisons nerveuses qui sont normalement excitées par la chaleur. Même si le plat est froid, ce composé provoque l'envoi d'un faux message de chaleur au cerveau. Il n'est donc pas vrai que manger très pimenté peut brûler les papilles gustatives. La brûlure n'est qu'illusoire. et elle se répand en chaleur dans le reste du corps aussi. Mais pour le cerveau, illusoire ou réel, la réaction est la même. Il faut évacuer cette chaleur. On se met donc à transpirer et la sueur produite, en s'évaporant, emporte de l'énergie thermique avec elle. On se rafraîchit. Mais comme on perd de l'eau, il est important de bien s'hydrater lorsqu'on mange épicé. Mais pour se rafraîchir de cette façon, encore faut-il apprécier la sensation de brûlure ou au moins la tolérer. Mais ça s'apprend. La réaction au piment fort est régie par un neurotransmetteur appelé substance P, P pour pain, qui signifie douleur en anglais. La substance P peut s'épuiser lentement et prend du temps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour être remplacée. Donc, si on mange souvent des aliments piquants, on développera une tolérance à mesure que la capacité à détecter leur présence diminuera. C'était « Manger épicé pour se rafraîchir », un texte de la rédaction paru le 25 juin 2021 dans Québec Science.
Les Premières Nations unies contre la séparation de l'Alberta et du Québec. Un texte de Ismaël Oudacine, paru le 16 juillet 2026 dans Radio-Canada, Espace autochtone. Aucune province n'a le pouvoir de modifier ou d'éteindre les lois issues des traités. En adoptant jeudi une résolution d'urgence qualifiée d'historique, les chefs réunis à l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations, APN, ont lancé un avertissement clair au projet de séparation de l'Alberta et du Québec, affirmant qu'aucune redéfinition de la Fédération canadienne ne peut se faire sans le consentement des Premières Nations. Rarement un dossier aura autant dominé les travaux de l'APN. Pendant trois jours, les velléités d'indépendance de l'Alberta ont alimenté les débats, les rencontres à huis clos et les discussions entre chefs venus des quatre coins du pays. En toile de fond, les modifications apportées par le gouvernement conservateur de Daniel Smith aux règles entourant les référendums citoyens et la crainte qu'un processus de séparation soit lancé sans consultation des Premières Nations. La résolution, déposée par le grand chef Joey Pete de la Première Nation Sunchild et de la Confédération du traité numéro 6 en Alberta, puis appuyée par Matthew Coon Comey, chef mandataire de la Nation Cree de Nemaska au Québec, affirme qu'aucune province ne peut modifier, réduire ou éteindre les droits issus des traités ni la relation constitutionnelle qui unit les Premières Nations à la couronne. Elle réclame également que tout changement constitutionnel respecte le principe du consentement libre, préalable et éclairé, consacré par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Pour la chef nationale de l'APN, Cindy Woodhouse-Nipinac, cette résolution illustre la solidarité des Premières Nations d'un océan à l'autre face au projet de séparation. Les Premières Nations sont pour le Canada et pour un Canada uni. Elles se sont toujours battues pour ce pays, a-t-elle affirmé en entrevue. Nos ancêtres, nos aînés et nos vétérans ont servi ce pays de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. La dirigeante autochtone salue également le rapprochement entre les leaders de l'Alberta et ceux du Québec. Aujourd'hui, les chefs de l'Alberta et du Québec sont unis. Ils se soutiennent mutuellement face à cette situation. Elle lance enfin un avertissement aux partisans de la séparation. Personne ne nous prendra nos terres. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ce sera encore vrai demain. Ils peuvent pousser autant qu'ils veulent vers la séparation, ils ne partiront avec aucune de nos terres, dit-elle. Interrogé sur l'inclusion du Québec dans la résolution, alors que le mouvement séparatiste actuel vise surtout l'Alberta, Cindy Woodhouse Népinac répond que « les chefs de l'Alberta ont besoin de notre appui ». Selon elle, c'est l'Assemblée des Premières Nations à son meilleur, des Premières Nations qui se soutiennent lorsqu'elles en ont besoin. Nous n'avons jamais donné notre consentement. Au cœur de cette mobilisation se trouve Joey Pete. D'après le grand chef du traité numéro 6, la question dépasse largement le débat politique sur l'avenir de l'Alberta. Elle touche directement aux obligations constitutionnelles de la province. L'Alberta a le devoir de consulter les Premières Nations. Nous n'avons jamais donné notre consentement libre, préalable et éclairé concernant nos territoires visés par les traités, a-t-il martelé lors d'un entretien accordé en marge de l'Assemblée. Selon lui, le gouvernement provincial aurait dû consulter les Premières Nations avant toute modification législative facilitant la tenue d'un référendum sur la séparation. Malgré la montée du mouvement souverainiste, Joey Pete se dit convaincu qu'une telle démarche ne pourra aboutir. « Sans les traités, il n'y aurait pas de constitution canadienne », soutient-il. Il voit dans la résolution adoptée jeudi un important rapport de force politique. Les 634 Premières Nations du pays l'ont appuyé. Nous ne sommes plus seuls. Toute la Fédération des Premières Nations est maintenant derrière nous, dit-il. Il affirme également que les tensions entourant le débat sur la séparation alimentent un climat de racisme grandissant dans sa province. Nos gens ont peur d'aller faire leur épicerie. Ils se font insulter, leurs voitures sont parfois vandalisées. C'est une période très inquiétante. Il reproche aussi à la première ministre Danielle Smith de ne jamais avoir rencontré les dirigeants des Premières Nations signataires des traités. Nous attendons toujours de la rencontrer. Pourtant, elle affirme publiquement qu'elle nous consulte régulièrement. L'expérience du Québec mise à contribution. Si la résolution vise d'abord les initiatives albertaines, elle inclut aussi le Québec. Ce choix n'est pas anodin. Mercredi, les chefs des Premières Nations de l'Alberta et ceux de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, APNQL, ont tenu leur première rencontre officielle. Les dirigeants québécois y ont partagé les enseignements tirés des référendums de 1980 et de 1995 afin d'aider leurs homologues de l'Ouest à préparer leur riposte. Mathieu Kuhn-Com a réaffirmé cette solidarité devant l'Assemblée. Le combat des Premières Nations des traités 6, 7 et 8 est aussi notre combat. Leur lutte est notre lutte, a souligné celui qui était chef national de l'APN de 2000 à 2003. Il a rappelé que les Premières Nations sont des peuples souverains dont les droits sont inhérents et ne dépendent d'aucun gouvernement. Le débat a également donné la parole à des communautés souvent absentes des discussions politiques, notamment les bandes sans réserve. Chef de la Première Nation Papachaz, en Alberta, Kevin Bruno a obtenu un amendement afin que ces communautés soient explicitement incluses dans les futures consultations. Même si nous n'avons pas de territoire de réserve, nous demeurons une communauté avec un chef et un conseil. Nous devons être à la table, fait-il valoir. Opposé au projet de séparation de l'Alberta, il rappelle que les terres visées par les traités ne peuvent être entraînées dans un projet indépendantiste. Ils ne peuvent pas emporter les terres avec eux. Elles ne leur appartiennent pas. Les traités, les territoires et les ressources ne peuvent pas être écartés comme si les Premières Nations n'existaient pas. Par cette résolution, les chefs des Premières Nations veulent envoyer un message sans équivoque. Aucune redéfinition du Canada ne pourra se faire sans eux. Leur unité affichée à Ottawa pourrait désormais peser lourd dans le débat politique qui s'annonce en Alberta à l'approche du référendum d'initiative citoyenne envisagé cet automne. C'était les Premières Nations unies contre la séparation de l'Alberta et du Québec. Un texte de Ismaël Oudassine, paru le 16 juillet 2026 dans Radio-Canada, espace autochtone.
La forteresse à virus de l'île de Reims. un texte de la rédaction paru le 10 décembre 2021 dans Québec Science. Une prison à haute sécurité pour les virus les plus dangereux. C'est un peu à ça que ressemble l'Institut de virologie de l'île de Reims, en Allemagne. 1 kilomètre de long, 300 mètres de large. Pas grand pour une île, mais bien assez pour confiner et étudier certains des virus les plus dangereux de la planète. Sur la toute petite île de Reims, en Allemagne, se trouve un institut bien particulier. Les chercheurs y étudient des virus d'origine animale capables de se transmettre à l'homme, les zoonoses. L'Institut Friedrich Loeffler, fondé en 1910, fait partie d'une cinquantaine de laboratoires à posséder un niveau 4 de sécurité biologique, soit le plus élevé qui soit. Et pour cause, on étudie là-bas des agents pathogènes, virus, bactéries, qui se transmettent par aérosol, pour lesquels il n'existe aucun vaccin ou traitement efficace et dont le taux de mortalité est important en cas d'infection. Dans cet Alcatraz du virus, on retrouve des détenus tristement célèbres comme le virus Ebola, le virus de la rage ou plus récemment le SARS-CoV-2 à l'origine de la COVID-19. Là-bas, toutes les précautions sont prises pour éviter l'évasion des détenus microscopiques. Les mesures de sécurité sont dignes du cinéma. D'abord, on aboutit à cet endroit par une route qui passe sur une digue au-dessus de la mer Baltique. L'île peut rapidement être isolée en cas d'accident biologique. Sur place, seule une dizaine de scientifiques sont autorisés à accéder aux installations de niveau 4. Pour eux, c'est douche obligatoire à l'arrivée, douche obligatoire à la sortie et combinaison étanche à l'intérieur. Dans toutes les zones de niveau 4, la pression atmosphérique est négative par rapport à l'extérieur, de manière à créer un appel d'air naturel vers l'intérieur. On s'assure ainsi de garder tout pathogène en dedans en cas d'accident. Et l'air qui ressort passe deux fois par un système de filtration à particules avant d'arriver à l'extérieur. Même les eaux usées, d'abord stérilisées, sont traitées sur place. L'Institut, qui compte 450 employés, est l'un des 3 laboratoires de niveau 4 au monde à posséder des installations pour effectuer des tests à grande échelle sur de gros animaux comme les sangliers ou les vaches. Le second se situe en Australie et le troisième ici, au Canada, chez nos voisins du Manitoba. L'expression « séjour sur une île » prend un tout autre sens. C'était « La forteresse à virus de l'île de Reims », un texte de la rédaction paru le 10 décembre 2021 dans Québec Science.